Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Durubella, qui est professeure à Sciences Po et qui est une des animatrices dans cette institution de l'Observatoire sociologique du changement. Marie Durubella est une des spécialistes les plus reconnues des questions d'éducation. Mais si je l'ai invitée aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce qu'elle a publié de nombreux travaux sur les questions d'orientation, sur les questions de sociologie de l'école, sur les questions d'inégalité à l'école, c'est aussi parce qu'elle s'est penchée depuis quelque temps sur la question du mérite. Et ce problème du mérite, qui est intimement lié aujourd'hui aux problématiques de l'égalité des chances, me semble être une des questions les plus centrales à la fois dans le fonctionnement de notre société et pour la sociologie, dans l'analyse de ces mécanismes. Sur ces questions-là, très récemment, Marie Durubella a publié aux presses de Sciences Po un livre qui a pour titre « Le mérite contre la justice », que je vous invite à lire, qui est un ouvrage très intéressant. Et dans des termes peut-être plus savants, elle a récemment publié dans la Revue française de sociologie un gros article sur la légitimité de la méritocratie scolaire. Et ses travaux empiriques lui permettent justement d'être la personne, à mon sens, qui peut le mieux traiter cette question du lien entre mérite et diplôme, qui surtout dans le cadre français est une question absolument centrale. J'ajoute que Marie Durubella n'est pas simplement un chercheur en chambre, mais qu'elle a été aussi pendant de nombreuses années membre du Haut Conseil pour l'évaluation de l'école, qu'elle a été membre de la commission Université de l'Emploi, et que dans le cadre du Conseil d'analyse stratégique, ancien commissariat au plan, elle a plus récemment été membre du groupe de prospective France 2025. Donc elle cumule à la fois les compétences du savant et je dirais l'attention aux mécanismes sociaux et à la vie des institutions. Donc je lui donne la parole tout de suite, en la remerciant encore une fois d'être là.
Merci, je remercie très sincèrement Pierre-Rosan Vallon pour cette invitation. Donc aujourd'hui nous allons parler du mérite, et comme on vient de vous l'indiquer, j'ai abordé cette question après avoir travaillé pendant un certain temps la question des inégalités sociales dans le système éducatif, c'est vraiment ma spécialité, les inégalités sociales, sexuées, des comparaisons internationales, enfin tout ça sur l'école, c'est vraiment, je me considère comme spécialiste des questions d'éducation essentiellement, donc je ne suis pas une spécialiste des questions de justice sociale, mais que néanmoins j'ai été amenée à aborder inévitablement, je pense qu'on ne peut pas travailler une trentaine d'années sur les inégalités sociales à l'école sans avoir envie, d'une part, de participer au débat public et sans se poser évidemment des questions de justice sociale. Donc le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, aujourd'hui je vais suivre le fil de cet ouvrage qui s'intitule « Le mérite contre la justice », en débordant selon mes envies et selon les travaux que je mène actuellement. Mais à mes yeux, il importe de souligner que c'est un essai, c'est-à-dire que les chercheurs sont parfois un peu puristes, en disant « ça c'est de la recherche stricto sensu, où je mets mes préférences politiques et mes valeurs entre parenthèses », et puis il y a un autre genre, qui est le genre de l'essai, où là, on peut se permettre des « il faut », ce qui n'existe pas pour un chercheur, évidemment. Donc, on se permet de prendre parti et de suggérer qu'on a derrière tout ça, finalement, des préférences. Donc, je vous parlerai de cet essai que j'ai voulu faire sur le mérite, parce qu'il me paraissait que cette notion faisait l'objet d'un engouement que je trouvais inquiétant de mon point de vue, et je vais vous expliquer pourquoi, et qu'il convenait donc de réfléchir spécifiquement à cette notion. Alors que le mérite fasse l'objet d'un engouement, vous en êtes évidemment tous conscients, on l'a vu pendant la campagne présidentielle de 2007, travailler plus pour gagner plus, c'est vraiment une idéologie du mérite, puisque ça met en avant la responsabilité personnelle de chacun dans sa réussite sociale, celle-ci étant mesurée à l'aune de signes extérieurs de richesse dont on a beaucoup parlé, mais si on est responsable de sa réussite, on est aussi responsable de ses échecs, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment l'emblème, travailler plus pour gagner plus, c'est vraiment l'emblème de la méritocratie, mais on a retrouvé depuis, c'est pas un hasard, cette thématique du mérite dans un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le domaine éducatif, par exemple la prime au mérite, qu'on offre aux bacheliers méritants. Il y a aussi dans la fonction publique des essais pour introduire, plus que des essais, une culture du résultat qui serait sanctionnée par un avancement au mérite. Et puis, de manière encore plus emblématique et peut-être plus consensuelle, on a vu se développer ces dernières années des dispositifs dits de discrimination positive, d'égalité des chances, dans le domaine de l'éducation. Alors, évidemment, tout ça n'est pas nouveau. La méritocratie, ce n'est pas nouveau. Ça s'inscrit dans la droite ligne du libéralisme classique. L'individu est la base de la société. À la limite, il n'y a même que des individus, comme disait Margaret Thatcher. Donc, l'individu est l'unité de base de la société et celle-ci doit lui permettre de déployer ses talents, ses aspirations, satisfaire ses besoins éventuellement. Mais encore faut-il pour cela que les personnes ne soient pas entravées ni favorisées indûment par des caractéristiques qui seraient sans lien avec leur talent personnel, que ce soit leur milieu d'origine, leur origine ethnique, leurs relations, leur caractère physique, etc. Donc le mérite s'oppose évidemment à la naissance, et dans ces sociétés démocratiques, on va juger acceptable, on y reviendra, voire juste, une certaine quantité d'inégalités entre les positions sociales que prennent ces sociétés. On les considérera comme acceptables si elles découlent d'inégalités individuelles, de talents, de mérites, d'efforts, etc., et donc si elles ne découlent pas indûment de caractéristiques héritées. Donc la méritocratie va privilégier évidemment l'égalité des règles de la sélection pour accéder à ces places. Donc elle privilégie l'égalité des règles de la sélection en acceptant par ailleurs les inégalités de position auxquelles cette sélection conduit. Donc c'est un droit qui est égal pour tous de s'insérer dans des places qui sont inégales. On voit bien que dès lors qu'on se focalise sur l'égalité face aux règles de la sélection, c'est la notion d'égalité des chances qui est mise en avant. C'est une notion qui est clairement consubstantielle à celle de méritocratie, puisque la méritocratie ne peut advenir si, avant même d'entrer en compétition, les personnes se distinguent autrement que par leur capacité, leur motivation, ou si elles ne peuvent les manifester, si leur liberté se trouve entravée. On dira alors, et c'est une expression très emblématique aussi du temps, que la concurrence est faussée. Il ne faut pas que la concurrence soit faussée. Donc ce n'est pas un hasard si le succès grandissant de la notion de mérite s'est accompagné d'un succès parallèle, de la notion d'égalité des chances, depuis les années 80 en particulier. Donc on promeut ainsi une certaine conception de la justice. C'est une conception de la justice qui accepte les inégalités sociales dès lors qu'elles découlent des inégalités de mérite individuel. Ou bien, pour reprendre les expressions d'un livre que vient de sortir François Dubé, La République des idées, qui s'appelle, je ne sais plus le titre, voilà, Les places et les chances, voilà. On accepte l'inégalité des places dès lors qu'il y a égalité des chances. Alors, on peut estimer, mais on y reviendra peut-être à la fin, que cette conception de la justice, cette perspective, conforte l'idée que finalement, il n'est ni possible, ni souhaitable même peut-être, de remédier aux inégalités de situation, et donc ceci parce que finalement elles sont légitimes, parce qu'elles ont un ensemble de vertus, et on peut évidemment discuter ce présupposé. Alors cette idéologie du mérite, elle est évidemment bien pratique pour des sociétés qui sont à la fois démocratiques, mais inégalitaires. Et c'est pour ça qu'elle est si consensuelle, si œcuménique. Cette idéologie permet de résoudre la tension tout à fait fondamentale entre des sociétés où on dit « Ah, ben vous êtes tous égaux », mais en même temps où on occupe des places très inégales, on est dans des conditions de vie très inégales, et donc quand même on se dit « Il y a quelque chose ». Donc nous sommes tous égaux, mais nous occupons des places inégales. Alors si on reprend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit d'un côté, vous le savez, qu'on est tous libres et égaux, elle dit aussi que ces inégalités, enfin on ne parle pas d'inégalités, on parle de distinctions sociales, ces distinctions sociales qui subsistent dans les sociétés ne peuvent être fondées, dit cette déclaration, que sur l'utilité commune. C'est-à-dire que c'est sur la base des services que les personnes sont capables de rendre hein, à la collectivité dont ils sont membres, eh bien, qu'ils peuvent bénéficier davantage de certaines distinctions. Et donc, c'est sur cette base-là qu'ils vont trouver leur place dans la société. Et ce n'est pas un hasard, c'est un peu une parenthèse, si c'est après la Révolution que s'est développée dans notre pays, au XIXe siècle, toute une psychologie dite différentielle qui cherchait à dire « oui, mais les mérites, les qualités, on les mesure comment ?» Par exemple, certains historiens de la psychologie ont montré que la notion d'aptitude, qui est maintenant très familière, elle a été inventée précisément au XIXe siècle, quand on s'est dit il faut bien justifier les inégalités qui subsistent, et puisque ce n'est plus l'origine sociale, il faut que ce soit vraiment des caractéristiques personnelles qui jouent. Donc on a inventé la notion d'aptitude. Au début du XXe siècle, certains d'entre vous le savent peut-être, on a inventé l'orientation professionnelle. Dans la société d'Ancien Régime, il n'y a pas de problème d'orientation, puisque c'est l'aristocratie, on passe d'un état social de père en fils, mais à partir du moment où on est tous égaux et où c'est les qualités personnelles qui doivent jouer, il y a un problème d'affectation des personnes. Comment va-t-on gérer ce processus d'orientation professionnelle ? Donc, on invente l'orientation professionnelle au début du XXe siècle, et les pionniers de l'orientation professionnelle ont été des gens qui pensaient qu'en orientant sur la base des aptitudes, mesurées par des tests, mesurées de façon très scientifique, on est très scientiste à l'époque, eh bien, on allait aller vers une société plus juste. Pour eux, la sélection par les aptitudes, c'est le gage d'une société plus juste. Donc on voit que tout ça est bien pratique, finalement, cette idéologie vient à point nommé pour permettre de résoudre donc cette tension. Ce que montre par ailleurs, et c'est peut-être moins connu, toute la psychologie, notamment la psychologie sociale, c'est que la méritocratie au sens large est aussi très confortable pour les personnes, pour les individus, en termes de psychologie individuelle. La psychologie démontre que nous avons tous besoin de croire en un monde juste. Il y a toute une littérature sur la croyance en un monde juste. On ne dit pas qu'on croit vraiment, mais c'est une illusion positive dont nous avons besoin et que nous inculquons aux enfants. Parce que finalement, qu'est-ce que nous cherchons à inculquer à nos enfants ? C'est que s'ils font le bien, ils seront récompensés. C'est-à-dire que leurs efforts seront récompensés. Donc, c'est la méritocratie. Tu travailles plus et tu gagneras plus. Ça reste un message fort de l'éducation, même si ce n'est pas le gagner plus qui est mis en avant. Mais en tout cas, il faut que l'enfant croit qu'en différant certains plaisirs, en faisant des efforts, eh bien, ça finira par payer un jour, comme le disent d'ailleurs les jeunes. Donc on a besoin de croire en un monde juste. Cette croyance est utile psychologiquement. Quand elle est défaillante, les personnes sont plus pessimistes, elles sont moins motivées à agir, donc elle agit comme un aiguillon, cette croyance. Donc elle fonctionne aussi comme une sorte de contrat entre moi-même et le monde. Elle rend prévisible, puisque si je m'investis, je serai récompensée. Et on voit bien que toute coopération sociale serait rendue bien plus difficile si on ne pensait pas que les autres se comporteront de manière juste. Donc, les personnes ont besoin, d'un point de vue psychologique, de croire que les mérites seront récompensés pour organiser leur vie autour d'un principe de justice, de réciprocité, pour faire face aux difficultés de l'existant. Alors, les psychologues montrent aussi que la puissance de cette croyance en un monde juste vient aussi de ce qu'elle s'adosse à une autre idéologie très prégnante dans les sociétés modernes occidentales, ce qu'on appelle la norme d'internalité. C'est vraiment très proche. La norme d'internalité, c'est une norme de jugement qui nous amène à privilégier les explications qu'on appellera internes des événements, c'est-à-dire celles qui donnent à l'individu un rôle causal, c'est de sa faute, au détriment des explications externes, telles que c'est le hasard, ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est le destin, enfin tout autre facteur, hors du contrôle des personnes. Cette norme d'internalité est très répandue dans les sociétés occidentales. Il y a des comparaisons très intéressantes de psychologie interculturelle qui montrent que dans certaines sociétés, notamment orientales, cette norme d'internalité est moins prégnante. Par exemple, j'avais vu des travaux assez amusants, mais très parlants, qui consistait à comparer la manière dont la presse rendait compte de faits divers. Et on voyait que le même fait divers, dans la presse occidentale, on mettait l'accent sur la responsabilité des personnes, alors que dans d'autres contextes culturels, on mettait davantage l'accent soit sur le groupe, soit sur le hasard, soit sur le destin, hein, quels que soient les termes qu'on utilise. Et dans nos sociétés, la norme d'internalité est très, très prégnante. Hein. Certains chercheurs ont montré, par exemple, qu'à l'école, les enseignants récompensent les élèves internes, ceux qui disent « j'ai pas assez travaillé », et c'est pour ça que j'ai une mauvaise note. Celui qui dira « c'est de la faute de je ne sais quoi d'autre », qui échappe à son contrôle, que ce soit « vous ne m'aimez pas » ou « il y a eu quelque chose à la maison qui a fait que », eh bien, ces élèves-là sont, toutes choses égales par ailleurs, moins bien notés. Donc il y a bien cette norme d'internalité qui pénètre hein, dans les jugements des enseignants. Donc cette norme convient bien à des sociétés qui ne croient plus au destin, hein, au déterminisme de tout genre et où on est censé être maître de sa vie. Donc vous voyez qu'à la fois le fait que la méritocratie soit fonctionnelle, si on peut utiliser ce vieux terme un peu, mais ça paraît, elle soit fonctionnelle au niveau des sociétés et fonctionnelle au niveau des individus, tout ceci explique le pouvoir de séduction qu'exerce cette idéologie au-delà des clivages politiques. Parce qu'il y a en fait un certain consensus politique hein, entre la gauche et la droite sur ces questions, bon, malgré évidemment des nuances. Hein. Évidemment, pour la droite, la promotion du mérite et de la responsabilité individuelle avec le moins d'entraves possible, c'est pour elle le critère d'une société efficace, hein, c'est un critère d'efficacité. La situation est plus floue à gauche. Hein. Certains hommes de gauche, par exemple Jean-Pierre Chevènement, dans les années 80, ont défendu ce qu'il appelait l'élitisme républicain, ce qui est exactement la méritocratie. Mais ceci étant dit, la gauche est traditionnellement plus méfiante par rapport aux notions de mérite, de responsabilité individuelle. La tentation est toujours là aussi de tout expliquer par les déterminismes sociaux, en niant la part faite au choix individuel. Donc il y a quand même cette tendance très forte. Et puis par ailleurs, évidemment, la gauche est davantage portée à promouvoir le rôle de l'État pour garantir l'égalité des chances. Donc il y a évidemment des nuances qui ne sont pas complètement anecdotiques, mais globalement, quand la droite met en avant des politiques dites d'égalité des chances, eh bien la gauche est un peu embarrassée et n'ose pas en tout cas les contrer de manière frontale. Par contre, il y a un domaine où là, il y a un consensus absolu, me semble-t-il, entre la gauche et la droite, et bien plus au-delà, c'est quant au rôle central que l'école hein, doit jouer pour, par rapport donc, à l'idéologie méritocratique. Alors, l'école a une double tâche dans nos pays, comme dans tous les pays modernes comparables. D'abord, elle doit organiser la sélection méritocratique et elle doit, par ailleurs, convaincre que cette sélection est bien méritocratique. Donc elle doit convaincre les élèves, mais au-delà la société, que la méritocratie, ça existe, ça marche, et elle en est la garante. Cette deuxième thèse, hein, cette deuxième aspect, disons, c'est pas une thèse, cette deuxième volet de l'action de l'école, inculquer la croyance en l'effectivité de la méritocratie, je ne la développerai pas trop aujourd'hui, mais vous sentez bien que c'est la thèse qu'ont promue en particulier Bourdieu et Passeron quand ils mettaient en avant ce qu'ils appelaient l'idéologie du don. Ils disaient finalement, l'école veut faire croire qu'elle sélectionne bien les plus doués, alors qu'en fait, elle sélectionne sur des critères particuliers qui font qu'in fine, ce sont les héritiers, ce qu'ils appelaient des héritiers, qui vont remporter les meilleurs titres scolaires, ce qui leur donnera un droit légitime à occuper les meilleures places. Hein, donc ça, c'est vraiment typiquement la thèse de Bourdieu et Passeron, qui n'ont pas forcément toujours, enfin qui n'ont pas d'ailleurs, validé sur le plan empirique, ce que j'ai repris dans des travaux récents, en disant est-ce que finalement les gens croient, ont vraiment intégré cette idéologie du don. Bon, on y reviendra peut-être dans la discussion, je ne pense pas que je m'arrêterai là-dessus dans mon exposé. La réponse est c'est pas si clair, hein, c'est pas si clair qu'en France on soit tous pénétrés de cette idéologie du don. Donc j'insisterai plutôt ici sur cette première tâche, hein, l'organisation de la sélection méritocratique. Si l'école parvient à organiser une sélection méritocratique, alors c'est les inégalités de mérite qui vont régir les cursus scolaires hein, et donc les trajectoires de chacun. Et sauf à imaginer que la distribution du mérite suive par magie, comme par magie, les hiérarchies sociales, alors on s'attend à ce qu'il n'y ait plus aucune corrélation entre l'origine sociale et l'accès aux différents niveaux du système éducatif. On s'attend à une répartition proportionnelle des enfants, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, sexe, etc., dans les différentes places de la hiérarchie scolaire et ensuite sociale. Bon, évidemment, ceci est complètement interpellé, pour prendre un terme euphémisé, par la sociologie de l'éducation et par le constat récurrent et sans appel de fortes inégalités sociales de carrière scolaire. Ce qui pose évidemment la question, est-ce que le mérite scolaire est juste ? Est-ce que l'école semble fonctionner de manière méritocratique ? Alors, ce qui frappe quand on s'intéresse aux inégalités face à l'école, c'est que les difficultés des enfants et leur caractère typé socialement, donc les inégalités sociales, sont très précoces. Et elles se concentrent avec beaucoup de netteté dans certains groupes sociaux. Et c'est tellement précoce et c'est tellement net qu'il semble exclu qu'elles puissent relever du jeu du mérite. Dès qu'on fait des mesures, on fait des mesures par exemple de ce qu'on appelle les prérequis pour la lecture au niveau de l'école maternelle, donc on regarde si les enfants ont un certain niveau de langage, sont latéralisés, comprennent bien l'avant, l'après, etc. Il y a un certain nombre de mesures qui ne sont pas strictement scolaires, mais qui sont ce qu'on appelle des prérequis. Eh bien, on voit que chez des enfants qui ont 3 ans, 3-4 ans, il y a déjà des inégalités sociales qui concernent toutes ces facettes, d'ailleurs, contrairement à une idée un peu convenue. Il n'y a pas que le langage qui fait des inégalités, mais même sur la latéralisation, on voit apparaître des inégalités. Et le drame, si on peut dire, c'est que l'école s'avère incapable, même à ce stade précoce, de remettre les compteurs à zéro, pour prendre une expression un peu triviale, mais ce qui serait nécessaire pour que puisse s'exprimer le jeu du mérite. L'école ne va pas compenser ces inégalités sociales. Et ensuite, ces inégalités vont s'accumuler. Parce que s'il y a une chose qu'on sait bien en matière de progression scolaire, c'est que les inégalités sociales, les inégalités sont cumulatives. On apprend d'autant mieux à un niveau donné qu'on était déjà bon au départ. On apprend sur les bases qu'on a. Et donc, si les enfants d'emblée rentrent inégaux sur le plan scolaire, dans les petites classes, au niveau de l'école élémentaire, eh bien, ça ne s'arrange pas. Les écarts vont se creuser ensuite, de façon assez modérée pendant l'école primaire, bien qu'il y ait ces dernières années des évolutions un petit peu inquiétantes à cet égard, et puis, en tout cas, de manière encore plus marquée au niveau de l'enseignement secondaire, où là, les écarts sociaux deviennent encore plus cumulatifs et importants. C'est-à-dire, plus on monte, plus ça va être cumulatif. Donc, on assiste ainsi à une transformation progressive d'inégalité sociale au départ en inégalité scolaire. Les enfants sont réellement inégaux scolairement en fonction de leur origine sociale. Ces inégalités scolaires ont évidemment une apparence plus légitime, elles sont plus conformes, semble-t-il, à la méritocratie. Alors, en outre, on sait que les inégalités de trajectoire scolaire découle certes de ces inégalités de réussite, mais aussi d'inégalités de choix, entre guillemets, de stratégie d'orientation ou de demande, diront les économistes, puisque la scolarité, surtout à partir du secondaire, est jalonnée de choix d'options, de choix d'établissement. Et dès qu'il y a un choix, il est marqué socialement, même à réussite comparable. Donc même quand on prend des enfants qui ont le même niveau de réussite, eh bien, l'origine sociale marque les choix. Et ceci va être un facteur de plus d'accentuation des inégalités de cursus qui vont donc s'accumuler petit à petit. Alors évidemment, ces inégalités de choix n'ont pas de rapport avec le mérite. Qui dirait que le fait de choisir de faire faire de l'allemand plutôt que de l'espagnol à son enfant signifie un mérite plus élevé, évidemment. De même, qui dirait que choisir telle école plutôt que telle autre est un signe de mérite. Donc là, personne ne discutera ce point, ça n'a aucun rapport avec le mérite, et pourtant c'est très important. Quand on fait des analyses quantitatives et qu'on essaie de chiffrer dans les inégalités sociales de carrière ce qui vient de la réussite et ce qui vient des choix, eh bien on arrive à de facteurs d'importance voisines dans notre pays. Autrement dit, les inégalités de choix pèsent autant que les inégalités de réussite dans la genèse des inégalités sociales de carrière. Et ceci est un résultat de la sociologie de l'éducation européenne. Dans la plupart des pays européens, on arrive à cette conclusion qu'on a deux facteurs, en gros d'importance voisine, qui expliquent ces inégalités de cursus. Alors, en outre, avec l'allongement des scolarités, avec la complexification des itinéraires, avec les nouvelles possibilités de choix qui ont été introduites récemment avec l'abolition de la garde scolaire, eh bien, on voit bien que ces inégalités afférentes au choix, fondées notamment sur des inégalités d'information, mais pas seulement, on pourra y revenir, eh bien, ces inégalités sont amenées à prendre de plus en plus d'importance, hein, et non pas donc à s'estomper. Alors, on a tout ça, qui est assez bien connu. De plus, ce que montrent les recherches, mais plus récemment, depuis les années 90, c'est que l'école elle-même n'est pas neutre. On s'attendrait évidemment à ce que l'école soit l'arbitre, soit la garante d'une juste compétition. Et de manière encore plus évidente, on s'attendrait à ce qu'elle ne vienne pas apporter sa pierre aux inégalités sociales, qu'elle n'en rajoute pas. Or, sur ce point, la recherche est quand même relativement accablante. D'abord, on sait que dans les progressions d'un élève, une année donnée, le maître qu'il a, l'école qu'il fréquente, la classe et l'endroit qu'il fréquente, sont des facteurs qui jouent beaucoup et qui jouent sur une année donnée bien plus même que l'origine sociale. S'il y en a parmi vous, je ne vais pas du tout vous donner de chiffres statistiques, mais pour vous donner un ordre de grandeur, quand on essaie d'expliquer les progressions une année donnée, c'est-à-dire on prend le niveau initial de l'élève, le niveau à la fin, ce qui joue le plus, c'est le niveau initial, le caractère cumulatif des acquis. Si on connaît en plus l'origine sociale, ça rajoute à peu près 5% d'explication de la variance, donc on comprend mieux, mais c'est pas une année donnée, ce n'est pas bouleversant. On comprend mieux les progressions quand on connaît l'origine sociale, qui rajoute un peu, qui aide à progresser, si on peut dire, les enfants de milieux favorisés. C'est à peu près 5%. Si on connaît le maître, ça va rajouter 15% dans la variance expliquée. Donc c'est beaucoup plus important. Si on me demande de choisir entre deux informations pour prédire la réussite finale d'un élève, je gagne plus à connaître son maître qu'à connaître son origine sociale. Donc sur une année donnée, c'est très important. Alors évidemment, comme l'enfant ne change pas de milieu social et qu'il change de maître, in fine, l'origine sociale pèse plus, mais c'est quand même très important. Et pourquoi ce 15%? Parce que les maîtres sont inégalement efficaces, au sens de, ils sont inégalement à même, de fait, de faire progresser les élèves. Selon les maîtres, les élèves progressent plus ou moins, selon l'école également, mais dans notre pays, les effets maîtres sont plus importants que les effets école. Donc globalement, ce qu'on appelle le contexte scolaire exerce une influence importante sur les progressions des enfants. Alors on me dira, bah, ok, mais il n'y a pas de raison de penser que ceci accroît les inégalités sociales. Eh bien si, ceci est un facteur d'aggravation des inégalités sociales, notamment parce que les enfants de milieux défavorisés fréquentent plus souvent des contextes moins efficaces sur le plan pédagogique pour un certain nombre de raisons. Certaines sont bien connues. On sait que dans les contextes dits difficiles, et qu'ils le sont d'ailleurs, ce n'est pas simplement dit, ils le sont, dans les contextes difficiles, on va affecter des maîtres plus jeunes. Or, un des facteurs bien connus de l'efficacité pédagogique, c'est l'ancienneté. Qu'on le veuille ou non, il y a une croissance de l'efficacité avec l'ancienneté. Bon, elle n'est pas parfaitement linéaire, on pourrait rentrer dans les détails, mais elle existe. Donc, on affecte des maîtres moins expérimentés, les équipes pédagogiques sont moins stables, parce que les enseignants n'ont qu'une envie, c'est d'en partir. Il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est que les maîtres s'adaptent à leur public, ce qu'on ne saurait leur reprocher, mais en s'adaptant à un public réputé difficile, ils vont de fait moins couvrir les programmes, la recherche le confirme, moins couvrir les programmes, être moins exigeants. Les élèves eux-mêmes, qui perçoivent tout à fait dans quel contexte ils sont, vont développer des normes de groupe moins favorables au travail scolaire, plus favorables à une certaine déviance scolaire, etc. Donc il y a tout un contexte qui est moins favorable, qui fait qu'au total, la ségrégation des publics et l'importance du contexte scolaire va être un facteur de durcissement des inégalités. On sait aussi que l'évaluation du mérite fait par l'école peut être un facteur de creusement des inégalités sociales. Bon, d'abord, les notes se fondent sur certains critères, mais ça, c'est inévitable. L'excellence scolaire, ce qu'on appelle l'excellence scolaire, c'est une construction sociale qui varie avec le temps. Les critères de l'excellence scolaire évoluent, ce qui est normal. On ne valorise plus les pleins et les déliés, on a d'autres critères. Donc, que l'excellence scolaire soit fabriquée, ce n'est pas du tout scandaleux. C'est comme la santé mentale. Tout ça, ça fait l'objet d'une fabrication sociale. Mais après, il faut se demander si ces critères, ça, c'est une problématique à la Bourdieu-Passeron, n'avantagent pas certains élèves. S'il n'y a pas des élèves plus à l'aise avec les critères qui sont de fait ceux de la notation que d'autres. Donc, sur ce point, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que si d'un côté, vous évaluez ce que savent les élèves avec des tests standardisés et que vous rapprochez ces évaluations standardisées des notes qu'on l'élève dans le contexte de leur classe, eh bien, en général, la notation va plutôt accentuer les inégalités sociales, elle va avantager d'autres élèves, on pourrait rentrer aussi dans le détail, mais globalement, l'évaluation accentue plutôt. Bon, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il est normal que les enseignants, étant eux-mêmes situés socialement, ils vont incorporer dans leurs notes des normes, des valeurs, des préférences. À tel point, par exemple, que dès la maternelle, on a pu observer que les enfants qui étaient jugés éveillés, sympathiques, etc., par les maîtresses de maternelle, étaient plutôt les enfants de milieux favorisés. Donc, voilà, on juge. De même, quand on tombe amoureux dans son milieu social, eh bien, les maîtres vont valoriser davantage certaines qualités chez certains enfants, et donc ça, c'est, si ce n'est pas contrôlé par une évaluation peut-être plus rigoureuse et plus conscientisée, comme on pourrait dire, c'est des phénomènes qui vont jouer. On sait aussi, mais ça c'est plus dans les grandes classes, au niveau du lycée, que les élèves négocient parfois leurs notes. Il y a les très beaux travaux de Pierre Merle qui montrent comment les élèves, quand ils ne sont pas contents de leur notation, sont capables d'aller la négocier avec les enseignants. Donc la note qui est délivrée in fine résulte de tout un processus de fabrication, où certains ont plus d'atouts que d'autres, où ça passe mieux pour certains enfants, et donc on ne peut pas penser que dans les résultats scolaires, il n'y a que du mérite. Il y a toute une part qui est fabriquée, pas forcément en rapport avec le mérite. Donc l'école n'est sans doute pas neutre dans cette affaire. Mais il y a plus troublant encore. La question est, peut-on vraiment trancher quant à savoir si les élèves qui réussissent ou ceux qui échouent le mérite vraiment? Tout évaluateur, tout enseignant sait bien que la performance résulte toujours d'un dosage un peu mystérieux, un peu incertain, entre du travail, des efforts, et quelque chose d'autre, qui fait dire dans les salles de professeurs qu'il y a des élèves qui ont plus de facilité que d'autres. On dira, oui, mais lui, il a plus de facilité. Lui, au contraire, etc. Donc souvent, c'est un petit peu mystérieux, cette affaire-là. Si les performances présentes résultent d'efforts, bon, ça c'est très bien, mais si elles résultent aussi indistinctement de choses qui sont plus dans le passé, de capacités héritées, on ne sait pas très bien d'où, alors il va être impossible d'évaluer précisément ce que ces performances doivent à la responsabilité individuelle, ce qui est très embêtant dans une perspective méritocratique. Donc tout ça, ça met un peu le trouble. Parce qu'on est face à de fortes inégalités de carrière scolaire, l'école semble en partie en être responsable, mais de plus, la mesure du mérite est non seulement imparfaite, entachée d'arbitraire, mais fondamentalement, est-ce qu'on peut vraiment mesurer le mérite? Alors, une voie, à vrai dire la voie privilégiée aujourd'hui, face à cette inégalité des chances, ce serait de se dire, on va essayer de renforcer l'égalité des chances, on va mettre en place des mesures de discrimination positive vigoureuse pour que triomphe enfin ce qui serait le vrai mérite et donc qu'il n'y ait plus de corrélation entre la carrière scolaire et le milieu social d'origine. Et donc dans cette perspective, on s'attend à ce que finalement, puisqu'on se focalise toujours sur l'élite, eh bien, il y ait autant d'enfants, d'ouvriers à Polytechnique qu'il y en a dans le reste de la population, donc on ait une représentation tout à fait proportionnelle des différents groupes sociaux, avec la question entre parenthèses de quels groupes sociaux, mais c'est un peu une autre question, dans nos filières, les filières dont on est si fiers, etc. Bon. Donc on va s'efforcer, par des dispositifs divers, de corriger les inégalités de l'offre scolaire, de mettre des classes préparatoires partout, de mettre en place des dispositifs pour aider particulièrement les élèves des, ce qu'on appelle les quartiers, à réussir ces concours, etc. On va faire de l'information. Tout ça est a priori fort respectable. Mais derrière, il y a des postulats qui posent question. Parce que derrière tout ça, on postule qu'au départ, souvent, alors au départ, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours dans la tête quand on parle de ces questions, et c'est très très mystérieux, on dit au départ, il y a dans tous les milieux sociaux autant d'élèves qui seraient à la fois capables et désireux d'atteindre ces niveaux très élevés, ces niveaux considérés comme les plus élevés, mais ils sont donc tous capables et désireux. Certains d'entre eux ont été barrés injustement du fait de leur environnement social ou du fait de dysfonctionnement de l'institution scolaire. Ils ont été barrés, Et donc, tous ceux qui n'atteignent pas ces filières d'excellence sont des victimes. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de victimes. Ça, cette perspective entraîne une inflation des victimes. Et donc, dans le succès actuel des dispositifs dits de discrimination positive, hein, pour l'accès à telle ou telle grande école, il me semble qu'il y a une quête assez morale du vrai mérite, d'aptitude innée, de préférence universelle, alors qu'on se demande si cette quête n'est pas une façon de nier complètement les inégalités sociales réelles. Est-ce que ce n'est pas un déni du social que de penser que les aptitudes pourraient être égales, que les préférences pourraient être identiques, quelles que soient les situations sociales des gens? Par exemple, prenons les aptitudes d'abord. Les aptitudes des enfants peuvent-elles être égales? Je pense qu'il y a dans cette idée du mérite, de la quête du vrai mérite, quelque chose qui ressemble à une quête de l'inné. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, il y a une intelligence, il y a des talents dont on serait doté dès la naissance, qu'il suffirait de laisser s'exprimer. Évidemment, ces talents seraient distribués également, selon les hasards de la génétique, dans tous les milieux sociaux, évidemment. Ok. Sauf que la psychologie du développement ébranle très très fortement cette vision, puisqu'elle démontre que, évidemment, on n'observe jamais les hasards de la génétique. Ça ne s'observe jamais, puisque dès la première seconde, l'enfant est plongé dans un environnement social et les psychologues démontrent aisément le caractère très inégalement stimulant de l'éducation qui prend place dès la première minute. Donc finalement, dès la première minute, la distribution de l'intelligence ou des aptitudes dont on peut parler in abstracto, elle est pipée et on ne peut pas invoquer le mérite ou la notion largement discréditée aujourd'hui de don ou d'aptitude. Il montre aussi que l'intelligence d'un enfant peut évoluer très fortement pendant sa vie, notamment si le milieu dans lequel il vit s'améliore. On a des tas de travaux sur les enfants qui sont placés dans d'autres milieux sociaux. On a aussi des travaux extrêmement dramatiques. On voit que des enfants, à niveau d'intelligence mesuré par des tests donnés, vont voir leur intelligence se dégrader si leur mère a elle-même des déficiences intellectuelles. Enfin, bon, on a des tas de travaux qui montrent que ça n'a pas de sens de se dire, voilà, il y a un potentiel, il est ce qu'il est. Non, très, très tôt, il va évoluer, il va vivre sa vie selon l'environnement social. Et donc, on ne peut jamais savoir les talents qu'un individu s'avérerait capable de déployer s'il était placé dans un environnement optimal. Et donc, tout ça, là aussi, on se dit, le mérite, alors, dans tout ça. Bon. Toujours est-il qu'il y a une conclusion qui se dégage de tout ça, c'est que les enfants peuvent être réellement inégaux selon les milieux sociaux. Il serait même étonnant qu'ils ne le soient pas, vu l'inégalité de leurs conditions sociales de développement, vu qu'ils ont affaire à des parents inégalement instruits, dans des conditions matérielles qui importent encore dans notre pays, quoi qu'on dise, etc. Donc, les environnements étant inégaux, les enfants vont être réellement inégaux. De la même manière, on peut se demander si leurs préférences, leurs ambitions, leurs projets peuvent être identiques. On sait, là aussi avec beaucoup de travaux, que les ambitions qu'on forge en termes de devenir social pour ses enfants ou pour soi-même sont fondamentalement relatives, c'est-à-dire qu'elles dépendent de votre point de départ et du groupe de référence, qu'on appelle le groupe de référence, auquel il semble raisonnable de s'identifier. Ce serait finalement la distance sociale à parcourir qui serait la mesure de l'ambition. On peut alors être également ambitieux, en ayant et viser des positions inégales. Par exemple, il peut être également ambitieux de viser d'un côté une position de technicien supérieur si vous partez d'un milieu où votre père est ouvrier spécialisé, et de l'autre de viser polytechnique si vos parents sont déjà, si on peut dire, instituteurs. Donc, on peut avoir une ambition identique et des visées inégales. De plus, mais ça c'est une question difficile et un petit peu tabou d'ailleurs, on ne peut pas exclure l'existence d'authentiques préférences héritées du milieu familial qui ferait que, finalement, tout le monde ne rêve pas d'entrer à Polytechnique, peut-être, finalement. Voilà. Alors, quand on dit tout ça, aptitude inégale, visée inégale, ça ne revient évidemment pas à entériner ces inégalités. Ces inégalités, justement, on vient de le voir, elles sont éminemment sociales, et qui dit sociale dit qu'elles ne sont pas fatales. On peut agir sur les environnements où grandissent les enfants. Mais c'est évidemment plus exigeant que de monter des dispositifs techniques qui corrigeraient comme ça des discriminations ponctuelles. Cela ne revient pas non plus à nier les phénomènes de discrimination. Pour certains enfants, sans doute, à la fois les aptitudes et la motivation étaient là, mais ils ont rencontré des obstacles iniques et qu'on va pouvoir lever par ces dispositifs. Mais il me semble que seul un fort ethnocentrisme de gens qui n'ont pas de problème, de dominants, dirait-on, ou encore un aveuglement idéologique assez fort, qui nierait à la fois l'existence d'inégalités sociales importantes entre les familles et l'impact de ces inégalités sur les enfants, peut amener à considérer que toutes les inégalités de carrière sont des inégalités des chances ou des discriminations. Je veux dire, c'est bien plus grave que ça, si on peut dire. Donc c'est plus grave que ça, parce que ça amène plutôt à questionner les inégalités globales dans la vie, enfin, entre les familles, à dire que ce qui est injuste, c'est fondamentalement que certains enfants soient infériorisés, le terme est fort, mais il est juste, je pense, soient infériorisés dès les premières heures de leur vie, par la faute à pas de chance, comme on dit parfois, et réciproquement que d'autres enfants aient trouvé dans leur berceau des ingrédients qui leur permettront ensuite de réaliser et parfois de réellement mériter des carrières scolaires plus prometteuses que d'autres. Mais évidemment, c'est plus embêtant. Donc je pense que cette problématique de l'égalisation des chances, des correctifs qui s'en suivent, sont une piste séduisante, mais qui séduit parce que tous ces correctifs ne seraient en fait qu'à la marge et ne toucheraient pas aux problèmes de fond. Alors, elles seraient à la marge, si je reprends l'exemple des grandes écoles, parce qu'elles ne touchent pas au cadre même de la compétition. Par exemple, pour les dispositifs qui corrigent, qui essaient de corriger l'accès aux grandes écoles, évidemment, ça ne touche pas au cadre lui-même des grandes écoles, du fossé entre grandes écoles et autres filières, par exemple, évidemment. Ça ne touche pas à ce postulat de la nécessité d'une sélection forte sur certains critères, etc. Mais aussi parce que, en s'y prenant si tard, avec des élèves de 18 à 20 ans, eh bien, on ne s'oppose pas à la question de ce qui s'est joué avant, qui est très important. Donc, il y a une question dans tous ces dispositifs qui est rarement posée, mais qui est souvent éludée, c'est à partir de quel point de départ suffisamment égalisé je vais permettre à une certaine compétition de s'exercer. Parce que finalement, on ne nie pas qu'il y a une compétition, mais on dit on va égaliser les conditions. Mais où je me mets pour égaliser? À quel moment dans le temps? Et évidemment, plus on se met tard, plus c'est problématique. Il reste que cette promotion volontariste de l'égalité des chances est bien sûr très importante d'un point de vue idéologique, puisque l'enjeu, pour revenir à ce que je disais en commençant, l'enjeu est de faire en sorte que l'écart n'apparaisse pas trop grand entre les principes et la réalité, donc de préserver une place pour le mérite, pour la responsabilité personnelle, et in fine, donc de justifier les inégalités sociales. Donc, à mon sens, essayer de renforcer le règne ou l'hégémonie même du mérite de la sorte est à la fois trompeur et discutable. Mais j'en viens à un autre point. L'hégémonie du mérite scolaire est critiquable en un autre sens. Ce qui est critiquable et ce qui est critiqué aussi d'ailleurs par les gens quand on les interroge, si je me réfère aux enquêtes que j'ai faites moi-même auprès d'étudiants ou auprès d'adultes, quand on critique les diplômes, ce n'est pas seulement parce qu'on dirait qu'ils sont répartis de façon injuste, parce que ça, la sociologie de l'éducation a beaucoup diffusé, et donc les gens savent bien qu'il y a des inégalités sociales, donc c'est un point qui amène à critiquer les diplômes, mais il y a un autre point qui consiste à dire « Oui, mais les diplômes mesurent qu'une partie des qualités des gens et une partie seulement de ce qu'ils vont mobiliser de fait dans leur situation professionnelle. » Et donc la question est alors, est-ce que l'école est capable de réaliser un classement qui est une réelle pertinence en dehors de l'univers scolaire, dans le monde du travail. Et ça, c'est une question importante, parce que la méritocratie se présente comme un gage d'équité et d'efficacité. On se dit, voilà, on va apparier les compétences et ce dont on a besoin dans le monde économique, et ça sera un facteur de croissance, on exploite le capital humain comme il faut, etc. Donc il y a tout un discours qui fait de la méritocratie un facteur d'efficacité. Donc la question, c'est est-ce que les diplômes, est-ce que les titres scolaires peuvent prétendre constituer de bons indicateurs des qualités qui vont compter dans la vie professionnelle? Donc en d'autres termes, est-ce qu'il est pertinent et justifié de calibrer le mérite professionnel par le mérite scolaire? Calibrer le mérite professionnel par le mérite scolaire, ou plus concrètement, de façon plus matériel et jusqu'à quel point est-il juste que les diplômés soient mieux payés que les autres ? C'est ça derrière la question. Alors, qu'est-ce que c'est que le mérite dans la vie professionnelle ? Dans la vie professionnelle, le mérite, finalement, il est défini par ce qui va rendre l'exercice de la profession plus efficace dans un contexte donné. On dit voilà, et c'est pour ça qu'on va le sanctionner, d'ailleurs. Ce travailleur fait bien son travail, participe de manière efficace à l'entreprise, il fait bien la tâche qu'on lui demande, et donc on va bien le payer. Donc, le mérite, c'est ce qui rend l'exercice de l'activité plus efficace. Alors, évidemment, ceci souligne, si besoin en était, que les rémunérations, enfin de tous ordres, mais évidemment les salaires, vont résulter de jugements sociaux, composites, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, des jugements sociaux composites qui vont inclure parfois des compétences académiques, mais souvent bien d'autres éléments, les études qui sont faites sur les déterminants des salaires, montre que le diplôme joue un rôle, notamment d'ailleurs plus dans les premières années de la vie professionnelle qu'ensuite. Petit à petit, leur pouvoir explicatif dans les analyses baisse, parce que justement, il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. Il y a évidemment l'ancienneté, mais on a d'autres éléments qui participent de la détermination du salaire. Il y a des études américaines qui montrent que l'apparence physique peut jouer, ou des qualités personnelles mesurées par des tests. Par exemple, justement, le fait d'être interne, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de croire qu'on est soi-même responsable de ce qu'on fait, etc., ce genre de qualité très importante dans nos sociétés est sanctionné par de meilleurs salaires, tout comme il était, je l'ai dit, sanctionné par de meilleures notes. Donc, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte dans ce qui sera le mérite professionnel tel que mesuré par le salaire qu'on reçoit. Donc, le marché du travail, les salaires qui en découlent, ne sont pas un étalonnage des capacités intellectuelles ni de la valeur morale des personnes. Il y a tout un marché du mérite, celui qu'on recrute, celui qu'on va bien payer, c'est celui qui, dans un certain contexte, se montre plus employable, dira-t-on, que les autres. Mais c'est le marché du travail, c'est les employeurs qui définissent cette employabilité. Ils la définissent par la nature des savoirs et des compétences ou des qualités qu'ils vont valoriser. Et ils peuvent valoriser des qualités qui n'ont aucun rapport avec ce que les sociologues ou les philosophes ou les politiques considéreraient comme des signes de mérite. Quand les employeurs valorisent l'apparence physique pour certains postes, bon, voilà, est-ce que c'est du mérite ? Mais ça peut être un critère d'efficacité pour certains postes. Donc, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, mais c'est ça aussi le mérite professionnel. Et dans d'autres postes, ils vont valoriser la capacité à écraser tout le monde, par exemple, pour des postes. Bon, voilà. Mais est-ce que c'est du mérite ? Donc, le marché du travail rémunère ce qui est jugé utile, ici et maintenant, dans un état donné des rapports économiques, et sans rapport avec toute notion de mérite intrinsèque ou de considération morale. De plus, il y a aussi beaucoup d'aléas dans ce marché du mérite, ça c'est pas étonnant. Il y a des qualités qui peuvent être valorisées à un moment et ne plus l'être dans d'autres. Peut-être qu'un jour, chez les traders, on valorisera l'honnêteté, la probité, des choses comme ça, et pas simplement la capacité à prendre des risques. Non, mais ça peut bouger tout ça, puisque c'est social, ça peut tout à fait évoluer. Donc il y a des aléas. Et puis, bien entendu, il y a les cycles économiques, on le voit bien en ce moment, il y a les cycles économiques, il y a les inégalités entre générations, dont on parle aussi beaucoup, et puis il y a le hasard. Pour vous donner un chiffre qui, moi, m'a beaucoup frappée, mais c'est un peu une parenthèse ici, je dois dire, j'ai découvert il y a quelques années les travaux d'un économiste de la Banque mondiale, qui s'appelle Branko Milanovic, qui a calculé, bon, alors c'est toujours des calculs un peu acrobatiques, parce que les données ne sont pas parfaites, mais qui a calculé sur les ressources des gens au niveau de la planète, avec des études de ménage, un pipeau, enfin, il a fait des tas de calculs compliqués, et il obtient une vision panoramique mondiale des ressources qu'ont les individus. Et il dit, dans ces ressources qu'ont les individus, qu'est-ce qui vient du fait qu'ils sont nés dans tel pays, riche plutôt que pauvre, etc., et éventuellement, qu'est-ce qui vient de leur origine sociale ? Et puis, en creux, qu'est-ce qui viendrait de leur mérite, du fait qu'ils ont travaillé pour avoir la position, etc. Eh bien, la conclusion chiffrée à laquelle arrive Milanovic, c'est que 80% des ressources qu'on a vient soit du pays, soit son origine sociale. D'ailleurs, dans le 80%, il y a beaucoup plus du pays, c'est le pays. Le pays est vraiment la source principale de notre richesse, c'est les pays où on a eu la chance d'être né ou pas, qui explique la grande majorité de nos ressources, et éventuellement aussi l'origine sociale. Ça veut dire que le jeu du mérite, si on se situe au niveau de la planète, il est excessivement faible. Donc ça, c'est l'aléa de la naissance. Bon, on en est tous conscients, mais il faut parfois, je trouve que le chiffrage est, comme toujours, je pense, tout à fait informatif. Donc toujours est-il qu'il y a beaucoup d'aléas, que souvent l'aléa prime sur le mérite, il y a beaucoup plus de gens méritants qu'il y a de positions où ces mérites seront reconnus. Hein. Et donc, personne ne peut vraiment dire qu'il mérite tout ce qu'il a dans la vie, ce qui est évidemment élémentaire et trivial, mais quand même très important dans le contexte d'individualisation, de rémunération, de culpabilisation qu'on connaît. Rappeler cette évidence qu'il y a de l'aléa, que personne ne mérite strictement tout ce qu'il a, est quand même assez important. Donc, les chances qu'on a d'accéder à des emplois ou à des études valorisées, ces chances qu'on essaierait, qu'on voudrait essayer d'égaliser, elles sont évidemment dépendantes de tout un contexte historique et économique. Et ce contexte historique et économique va constituer en quelque sorte les bornes objectives du mérite. Il y a des bornes objectives du mérite. Le marché du travail est un marché. Et donc, en particulier, le rapport entre les flux d'emplois et les flux de diplômés dans telle ou telle génération vont dresser le cadre dans lequel va pouvoir éventuellement s'exprimer le mérite. Je m'explique. Les diplômés d'aujourd'hui n'ont pas moins de mérite que les diplômés des années 60. Pourtant, ils s'insèrent avec plus de difficultés. Pourquoi ? Parce que le contexte, la conjoncture a beaucoup changé. Dans les années 60, on avait environ 10% d'une classe d'âge qui avait soit le bac, soit au-delà. Ces jeunes visaient des emplois de cadre qu'ils avaient très fréquemment. Ils représentaient 5% des emplois. Donc on avait 10% des gens pour 5% des emplois. Ça marchait pas mal. Bon, aujourd'hui, les ratios ont complètement changé, puisqu'on a 40% d'une classe d'âge qui a un diplôme du supérieur, et les emplois de cadres, même s'ils ont augmenté depuis les années 60, ils augmentent moins maintenant, c'est 17%. Donc vous voyez, les ratios sont complètement différents, et donc ceci va évidemment affecter les destinées individuelles indépendamment du mérite. Donc il y a des bornes objectives du mérite. Donc il ne suffit pas d'avoir du mérite pour réussir. Évidemment, par leurs efforts et ce qu'ils font de leur talent, les personnes se classent, mais leur devenir, notamment les conséquences sociales et économiques qui vont découler de ces différences de classement, eh bien, ça leur échappe. C'est loin d'être sur leur contrôle. La réussite est sociale, c'est les cours du marché du travail au sens des cours de la bourse. C'est donc les cours du marché du travail qui vont décider, in fine, que les mérites seront sanctionnés ou pas, donc qui donneront aux mérites leur sanction, leur valeur sociale et économique. Alors, est-ce qu'il faut regretter tout ça ? Est-ce qu'il faut regretter, déplorer que le mérite ne règne pas en grand maître, en grand ordonnateur des destinées ? Bon, c'est pas sûr. Évidemment, dans notre pays, a priori, on valorise beaucoup des relations très strictes entre formation et emploi. On se dit, voilà, quand il y a une relation forte entre formation et emploi, c'est un gage de méritocratie, c'est valorisé en tant que tel, et voilà, on aime bien ça. C'est vrai que c'est aussi un facteur d'efficacité. Si on met de l'argent pour former des gens, on aimerait mieux qu'ils ne travaillent dans leur domaine et à hauteur de leur qualification. Mais évidemment, ceci ne vaut que si les diplômes, les formations et les diplômes qui en résultent, constituent bien des reflets fidèles du mérite. Comme on vient de voir que ce n'était pas si sûr, ça pose déjà un problème. C'est-à-dire que dans tous les cas où les diplômes ne peuvent prétendre refléter purement le mérite, dans tous les cas où le mérite professionnel ne recouvre pas le mérite scolaire, deux choses relativement avérées, eh bien, à ce moment-là, des relations formation-emploi strictes sont à la fois injustes et efficaces. Ce qui, évidemment, c'est une façon de penser les choses assez bouleversante dans notre contexte national. De plus, il y a un autre facteur auquel qu'on peut mettre en avant. À l'heure actuelle, que ce soit dans notre pays ou d'ailleurs en Europe, on observe un certain relâchement des relations entre formation et emploi. C'est valable vraiment pour tous les pays, bon, qui s'explique en particulier par les facteurs que j'évoquais précédemment, de flux, c'est-à-dire qu'il y a une explosion du nombre de diplômes, les structures de l'emploi évoluent moins que proportionnellement, ceci brouille un peu les relations formation-emploi. Mais est-ce qu'il faut le déplorer ? Beaucoup d'auteurs souligneront que ceci est la contrepartie d'une certaine démocratisation de l'accès à l'éducation. Et donc, si on se réjouit que les jeunes aient davantage de formation, mais on ne peut pas s'attendre, si un jour on ne forme plus que des gens de niveau troisième cycle universitaire, on ne peut pas s'attendre à ce que pour autant, ils occupent tous des emplois hyper qualifiés, s'ils sont tous diplômés à ce haut niveau. Parce que la structure des emplois, c'est autre chose. Et ceci a été souligné d'ailleurs avec beaucoup de malice par Jean-Claude Passeron dans un texte assez prémonitoire qu'il avait écrit en 82 qui s'appelait « L'inflation des diplômes ». Avec une citation que j'aime beaucoup, donc je vais vous la lire, je trouve qu'elle est très très fine. Il disait, il écrivait en 82, « On peut voir les mêmes individus ou les mêmes groupes qui affirmaient il y a peu que la démocratisation de la culture serait réalisée lorsque le jardinier pourrait lire Platon dans le texte, se voiler aujourd'hui la face en constatant qu'on risque de se retrouver jardinier avec une licence de grec. » Ah, c'est quand même pas mal. Donc, effectivement, on se réjouit de pouvoir parler littérature avec notre plombier, mais on est content aussi d'avoir... Alors, si on revient à la question de savoir s'il faut considérer que le mérite, finalement, c'est peut-être pas si mal qu'il ne soit pas si influent, faisons un peu de sociologie-fiction et demandons-nous si un régime du tout mérite serait vivable. Est-ce qu'un régime de tout mérite serait vivable ? Et la réponse est sans doute non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça entraînerait, ou ça entérinerait, une perversion des missions de l'école. Parce qu'on voit bien que parmi les multiples effets de la méritocratie, il y a le fait qu'elle privilégie certaines finalités. Elle les privilégie de fait. Certaines finalités de l'école, puisque la logique méritocratique hypertrophie la fonction de classement de l'école. Il faut classer les élèves. Or, évidemment, personne ne défendrait, enfin, en tout cas ouvertement, que la sélection, la recherche de l'excellence, la seule logique de promotion individuelle doivent être les seules priorités de l'école, parce que l'école, a priori, elle est chargée d'éduquer tout le monde. Et elle peut guère laisser à la traîne une frange significative d'une classe d'âge. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un noyau dur, comme on dit pudiquement dans les textes, un noyau dur d'élèves faibles, d'élèves sans qualification. Ça peut être 8% d'une classe d'âge qui n'a pas de qualification, ça peut être un peu plus qui ne savent pas lire. Bon, voilà. Est-ce que ce n'est pas un problème en termes de justice, mais aussi d'efficacité. Donc l'idée que l'école ne peut être seulement un vaste espace de compétition, mais doit aussi former tout le monde, ne paraît pas complètement révolutionnaire, et en tout cas, ça serait le prix à payer, une école du pur mérite compromettrait tout à fait cette mission éducative et engendrerait des gaspillages. Alors les gaspillages, c'est 8% d'une génération qui est incapable d'avoir un diplôme ou qui est incapable d'apprendre à lire un peu plus même. Donc ça, c'est des gaspillages. Mais c'est aussi des gaspillages parce que, comme je l'ai évoqué, les évaluations scolaires du mérite se fondent sur un ensemble de qualités assez limitées. Il y a des élèves qui ont des qualités qui ne seront jamais valorisées par l'école. Alors peut-être qu'elles seront valorisées plus tard si les diplômes ou leur absence de diplôme ne leur ferment pas toutes les portes. Ça, c'est l'envers de fortes relations formation-emploi. Donc, l'école, il y a des tas de qualités qu'elle n'évalue pas. Il y a aussi le fait que la hiérarchie des mérites scolaires, elle est souvent calée sur des critères complètement extérieurs. Pourquoi les mathématiques valent plus ? Pourquoi c'est mieux d'être bon en maths que d'être bon en littérature ancienne ou en philosophie ? A priori, il n'y a pas de raison. Mais c'est parce que les cours du marché du travail font qu'on pensera qu'il est plus rentable d'être bon en mathématiques que d'être bon dans les domaines littéraires. Ça peut être, évidemment, c'est difficile de le défendre en soi, mais on voit bien que la logique méritocratique et de fortes relations emploi conduit à soumettre l'école à une hiérarchie de critères qui sont ordonnés selon les débouchés du moment, et donc qui feront qu'elle valorisera les maths, les techniques, etc. Ça incite les élèves à s'orienter selon ces critères dont le cours est élevé, bien plus qu'en fonction de leur goût éventuellement authentique. On a un certain nombre d'élèves, c'est tout à fait banal comme observation, qui vont faire des études scientifiques, ou notamment un bac scientifique, alors qu'ils ne s'intéressent pas du tout aux sciences, parce qu'on leur dit, ben, comme ça, tu auras des débouchés, point. Et c'est l'alpha et l'oméga de tout leur choix scolaire. Donc c'est vrai que c'est aussi quand même le prix à payer d'une logique méritocratique. Et puis réciproquement, dans le monde du travail, certains emplois vont être considérés comme non qualifiés, parce que les compétences qu'ils exigent ne correspondent pas à des diplômes. Voilà, il n'y a pas de diplôme, donc c'est non qualifié. Et donc, ça, c'est quand même aussi assez ennuyeux. C'est-à-dire, la valorisation des qualités ou des compétences scolaires a pour corollaire une dévalorisation, ou une ignorance, en tout cas, des qualités ou des compétences non scolaires. Donc, tout ceci compose une définition quand même très particulière du mérite, que de matière globale, l'école fait intérioriser aux élèves. Et évidemment, là aussi, il y a des coûts psychologiques importants, puisque le message implicite de la méritocratie scolaire, c'est qu'on mérite d'être un bon élève, qu'on ne travaille pas bien, c'est qu'on l'a mérité, hein, l'échec est mérité, le niveau de réussite scolaire reflète l'intelligence. Évidemment, tout ça, quand on échoue, c'est un peu ennuyeux. Hein, donc c'est un message très mortifiant pour les élèves les plus faibles, hein, qui sont convaincus de leur infériorité. Et donc beaucoup de chercheurs, je pense notamment aux travaux de François Dubé dans l'École des chances, hein, qui ont souligné que la méritocratie marquait de manière cruelle l'expérience scolaire de ceux qu'il appelle les vaincus, ou les perdants, enfin, on peut appeler les perdants de la compétition scolaire. Et ces perdants vont être très nombreux, puisque dans la logique méritocratique, dans la logique de sélection, l'échec est nécessaire. Hein, ce que montraient également les travaux d'Antoine Pro il y a plus de 30 ans, il faut qu'il y ait des perdants. Hein. Il y a une course à l'excellence, tout le monde ne peut pas gagner. Hein, donc il y aura plus de perdants que de gagnants. Hein, donc l'échec fait partie de la logique de ce système. Il y a d'autres effets psychologiques, hein, qui sont analysés par les psychologues, hein, qui montrent que les élèves acquièrent dans un système qui serait vraiment, et acquerraient encore plus dans un système régi par le pur mérite, la conviction que pour réussir, il faut se montrer meilleur que les autres. Donc c'est la compétition, hein, et quand le climat social, le climat des classes, c'est un lapsus significatif, quand le climat des classes est perçu comme très compétitif, quand le rôle du diplôme est perçu comme très écrasant, ça peut là encore ébranler l'estime de soi, rendre les jeunes moins confiants dans leur capacité à s'en sortir par leurs seuls efforts. Hein. Et ça, on le voit bien dans des analyses sur la jeunesse, je pense soit aux travaux d'Olivier Galland, soit de Cécile Vandevelde, hein, qui a fait des comparaisons internationales des jeunes. Et quand elle compare l'état psychologique ou les aspirations, la confiance en soi au niveau européen, elle observe que les jeunes Français, enfin, elle observe, et bien d'autres l'observent aussi d'ailleurs, que les jeunes Français sont particulièrement anxieux parce qu'ils ont l'impression qu'ils jouent tout leur avenir sur le diplôme. C'est-à-dire, ils ont été dans un contexte vraiment compétitif. Hein, ils utilisent souvent la métaphore du tunnel. Ils sont dans un tunnel, ils vont tout jouer sur les études et si ça ne se passe pas bien, ben c'est fini. Ils sont finis. Hein. Alors que, par exemple, elle compare ça avec les jeunes Danois, qui ont une vision beaucoup plus souple, d'ailleurs, de l'insertion, puisque à l'issue de leurs études secondaires, c'est aussi un système social particulièrement généreux, hein, ils peuvent partir dans la vie active, revenir, repartir, avec chaque fois la garantie qu'ils pourront reprendre des études. Donc, ils ont le sentiment qu'ils peuvent essayer de se trouver, hein, avec des allées et des venues. Enfin, c'est une expérience complètement radicalement différente de l'image vraiment du tunnel français où on joue tout sur ses études. On ne pourra pas reprendre des études. Vous savez que c'est en France que les reprises d'études, notamment les taux d'études entre les 25-30 ans, est très faible dans notre pays, bien plus que d'autres pays européens. La formation permanente est également assez peu développée. Donc nous, on joue tout là-dessus, dans un climat de tension, dans un climat de compétition. Et ceci, évidemment, explique un certain pessimisme, hein, des jeunes Français qu'on observe dans toutes les enquêtes comparatives internationales. Et puis un autre point, c'est qu'une logique méritocratique exacerbée se traduit par un utilitarisme des élèves qui fait très mal aux enseignants, mais qui sont condamnables sur le fond, c'est-à-dire que on fait ce qui est utile, quoi. C'est-à-dire que les familles multiplient les investissements éducatifs distinctifs, hein, pour faire la différence, pour classer leurs enfants. Les élèves eux-mêmes vont chercher la différence, hein, et ça entretient une logique inflationniste, c'est-à-dire qu'on va développer des tas d'options. On sait par exemple que notre secondaire supérieur, enfin, le niveau du lycée, on a beaucoup d'options, on a beaucoup plus d'options que dans d'autres pays, parce que ces options servent avant tout à se distinguer. Alors, quand je dis ça, c'est un peu provoquant. On dira, mais non, ils font des options par goût culturel, etc. Bon, il y a des travaux historiques qui montrent que ce n'est pas si sûr. Hein. Je ferai une petite parenthèse, par exemple, sur l'utilisation du latin. On pourrait démontrer assez facilement que les élèves qui font du latin viennent de milieux très instruits où on a un certain respect pour les humanités, donc il y a finalement des préférences culturelles qui font du latin. Mais à cet égard, il y a des observations historiques assez troublantes. Hein. Quand on a réformé les secondes, les classes de secondes des lycées en 81, vous vous rappelez sans doute qu'avant 81, il y avait des secondes diversifiées. Il y avait des secondes littéraires, les A, il y avait des scientifiques, les C, il y avait des AB économie. Bon, on a décidé de faire une seconde unique de détermination, mais avec des options. Bon. Cette volonté d'uniformiser les secondes a fait peur aux familles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en un an, on a vu au niveau de la seconde, le pourcentage d'élèves qui faisaient du latin augmenter de façon vertigineuse. Et les proviseurs ont ainsi pu constituer des classes de latinistes qui ressemblaient comme des sœurs aux anciennes secondes scientifiques. C'est-à-dire que les parents ont eu peur de la différenciation. Et donc, on a pris le latin. Voilà, on a pris le latin et comme ça, on s'est retrouvés entre soi dans des classes de bon niveau, etc. C'est-à-dire que les options ont été utilisées. On ne peut pas penser que les affinités culturelles pour le latin ont cru de manière aussi vive hein, en si peu de temps. C'est vraiment, on voit bien l'exemple de choix stratégiques. De même, ces dernières années, quand le ministère a décrété, pas forcément réalisé, mais décrété qu'il n'était plus possible, enfin, qu'il ne fallait plus regrouper les germanistes dans les mêmes classes, on a vu le pourcentage d'élèves faisant de l'allemand décroître de manière vertigineuse. Donc, on a plein d'éléments comme ça qui montrent que les options sont utilisées de manière stratégique par les familles pour se distinguer. Donc, on arrive à des comportements utilitaristes qui pervertissent finalement quand même beaucoup hein, l'éducation elle-même. Hein, si on fait vraiment ça pour ça, hein, c'est un peu, ça pose un problème. Un dernier point sur le plan scolaire, toujours, c'est que la logique méritocratique entraîne aussi des gaspillages, j'allais dire, tout au long de la vie, puisque si vraiment on reconnaît et on sanctionne les qualités des personnes, comme dans notre pays, à un âge très jeune, à 20-25 ans, si on les sanctionne et qu'on donne des rentes, qu'on exclut sur cette base-là, eh bien, c'est une source d'inefficacité économique et d'injustice, évidemment, puisque ça verrouille les destinées très tôt, hein, alors que d'autres qualités pourraient bien sûr s'exprimer. Hein, le fait que dans notre pays, beaucoup de choses soient verrouillées à un âge très jeune, avec le rôle de réseaux sociaux très fort. Par exemple, chaque fois que les employeurs recrutent des jeunes qui leur ressemblent, parce qu'ils sont formés à la même école, par exemple. Bon, est-ce un critère toujours d'efficacité? De même, quand ils recrutent des surdiplômés pour plus de sécurité, hein, c'est un facteur d'efficacité. Donc, les employeurs, évidemment, ils ont besoin de raisons légitimes pour canaliser l'accès à des emplois enviables, et le diplôme fournit une bonne raison. C'est une raison pratique, économique. En plus, ce n'est pas eux qui payent, donc c'est bien, ils utilisent ce critère, d'accord. Mais chaque fois que les diplômes ne permettent pas de prédire précisément les performances des personnes dans leur travail, leur utilisation pour exclure certaines personnes et pour promouvoir d'autres est une pratique non seulement inefficace, mais discriminatoire, hein, donc qui mérite d'être sanctionnée à la limite. Hein. Ça renvoie à toutes des analyses de sociologues assez, qui ne sont pas nouvelles, hein, des années 80. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelait Collins, hein, qui utilisait le mot de crédentialisme. Il disait dans les sociétés qui ont rejeté les règles aristocratiques, en fait, l'aristocratie va prendre le visage de la méritocratie. Mais c'est pareil, disait Collins, c'est-à-dire que les gens vont essayer de reproduire la situation sociale qui est la leur à travers leur enfant en utilisant les diplômes, et ils vont défendre le rôle des diplômes. Il faut des diplômes pour accéder à la position que je fais, c'est nécessaire, ils vont utiliser toute une rhétorique, mais, dit-il, le rôle des diplômes, il utilisait des expressions assez parlantes, il disait c'est des stratégies de self-défense. On défend sa position, la position qui est la sienne, avec des diplômes, hein, ce qu'il appelle le crédentialisme, et dit-il, c'est un facteur de rigidité plus que d'efficacité, et c'est aussi un facteur d'immobilité sociale. Donc, tout ça pour dire que la logique méritocratique poussée à l'extrême, là, évidemment, tout ça est un peu poussé à l'extrême, dans le monde scolaire, a des coûts hein, et engendre des inégalités spécifiques. Alors, avant de revenir au monde du travail, là, enfin, aussi dans ce domaine, évidemment, un régime du pur mérite entraînerait des coûts spécifiques. Hein. Je ferai une petite parenthèse, ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais je ferai une courte parenthèse, enfin, ou une incursion dans le domaine de la famille. Parce que, comme vous le savez, il y a tout un débat autour de la famille quand on parle du mérite. Une chose est claire, le règne du pur mérite justifierait qu'on abolisse la famille. Il y a des tas de discussions là-dessus, parce que les familles font l'objet, enfin manifestent, pour reprendre une expression d'un philosophe politique anglais, Adam Smith, les familles manifestent une partialité légitime. Ou bien, dit autrement, il est légitime qu'elles soient partiales avec leurs enfants. Quand on observe des corrélations entre les caractéristiques des familles et les atouts des enfants, les caractéristiques des enfants, on allait dire que c'est condamnable. Mais non, ça serait une absence de corrélation serait condamnable. Ça voudrait dire que les familles ne transmettent rien à leurs enfants. Or, on considère non seulement comme normal, mais souhaitable que les familles s'occupent de leurs enfants, qu'elles leur transmettent quelque chose, qu'elles transmettent des choses qu'elles ont acquises, qu'elles leur donnent. Évidemment, on considère que c'est normal, mais en même temps, c'est complètement contraire au principe méritocratique, puisqu'on ne choisit pas sa famille. Et donc, on ne peut pas être tenu pour responsable des inégales dotations dont votre famille vous a crédité. Donc, voilà, est-ce qu'il faut choisir, finalement, entre la famille et la justice ? Considérer que la valeur de la famille l'emporte sur le principe méritocratique, c'est une discussion très classique qu'on trouve chez Aristote, qu'a repris John Rawls. Donc, voyez, elle traverse toute la philosophie politique. Donc, je ne l'aborderai pas ici, mais plus modestement, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ce que peuvent faire les parents pour leurs enfants est justifié ? Voilà. Est-ce qu'on a tous les droits ? Est-ce qu'on peut les avantager par toutes les stratégies possibles ? Bon. Il est probable que certains des processus qui contribuent à une forte corrélation entre les parents et les enfants sont acceptables moralement et sans doute efficaces sur le plan social ou économique, alors que d'autres ne seraient pas. Par exemple, quand les parents essaient de stimuler leurs enfants pour stimuler leur intelligence, stimuler leur langage, bon, qui va critiquer ça ? On dira c'est normal et c'est une source d'efficacité. Pour la société, on ne va pas interdire aux parents de raconter des histoires à leurs enfants, de leur offrir des loisirs épanouissants, de leur inculquer des qualités morales. Tout ça, on ne peut pas l'interdire. Donc ça, c'est légitime. Donc il y a une part de ces stratégies de transmission qui sont tout à fait légitimes. Mais, on le sait bien, les inégalités parents-enfants passent aussi par des moyens qui sont peut-être plus questionnables. On peut questionner, par exemple, les héritages. Jusqu'à quel point faut-il taxer l'héritage, bien sûr. On peut aussi se demander s'il n'y a pas certains appuis des parents qui seraient illégitimes. Par exemple, quand on appuie son enfant pour accéder à certains établissements, accéder à certaines places, à certains métiers, etc., est-ce que là, on ne peut pas faire quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas là des stratégies qui sont moins légitimes que les premières ? Mais à ce moment-là, plutôt que d'essayer de contrer les familles, ce qui est toujours très difficile, on peut aussi essayer de modifier l'espace dans lequel les familles déploient ces stratégies. Prenons l'exemple du choix des établissements scolaires, que je connais plus ou moins mal que le reste. On peut comprendre les raisons qui font que les familles les mieux informées fuient certains établissements. Il y a des établissements scolaires où pas un enseignant n'aiderait ses enfants, donc on se dit, ça veut dire quand même quelque chose. Bon. Donc on peut comprendre les bonnes raisons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut les forcer, leur faire la morale ? Essayer de les forcer, de ruser en essayant de changer la carte. Enfin, la carte scolaire, ça n'existe plus, mais de changer les réglementations, de changer les critères. Essayer de ruser avec elles. Ou est-ce que finalement, le plus efficace ne serait pas de leur enlever les bonnes raisons qu'elles ont de fuir ces établissements ? C'est-à-dire d'essayer plutôt d'égaliser les conditions dans lesquelles elles exercent leur choix. Mais en tout cas, jouer la carte morale en disant « vous jouez contre l'intérêt général », etc., paraît relativement vain parce que les familles sont fondées à être partiales avec leurs enfants. Bon. Donc finalement, je pense que l'objectif ne peut pas être une corrélation nulle entre les caractéristiques des parents et des enfants, mais une corrélation moins forte, peut-être moins injuste. Et puis, évidemment, in fine, derrière, si les familles étaient moins inégales, ça serait moins embêtant. Et ça, on y reviendra à la fin. Donc, venons maintenant au monde du travail. Dans le monde du travail aussi, un régime du pur mérite serait invivable, pour résumer les choses. Comme vous le savez, on assiste actuellement à l'école, dans le monde du travail, à la montée de ce que certains ont appelé un imaginaire de la performance qui valorise l'entrepreneur qui réussit, la prise de risque, un rapport décomplexé à l'argent, donc tout ça est mis en avant. C'est pas depuis 2007. Hein. On a des analyses de ces phénomènes depuis les années 90 avec De Gaulle, Jacques, Ehrenberg, etc. Des sociologues du travail. Tout ça traduit ce qu'on peut appeler un culte de la performance, hein, c'est l'expression d'Ehrenberg, un impératif d'excellence, hein, donc performance, excellence. Alors évidemment, performance et excellence sont présentés aussi comme des objectifs découlant du souci de développement de soi, hein, lui-même inhérent à des sociétés de plus en plus individualistes. On dira, voilà, les gens veulent se réaliser dans leur travail et c'est pour ça que... Donc ça, c'est une évolution plus globale. Mais cette norme d'excellence et de performance s'inscrit aussi dans un contexte de concurrence économique plus dure. Pour survivre, les entreprises se doivent d'être de plus en plus performantes, de plus en plus réactives, comme on dit. Leurs employés doivent relever ce challenge, exploiter au mieux leur potentiel, se révéler comme les meilleurs. Chacun doit pouvoir survivre et chacun doit voir ses efforts et son mérite récompensé aux yeux de tous. Et donc, on peut craindre que cette individualisation de la réussite et des rémunérations, sans complexe, ceci n'attise l'envie, la compétition, les frustrations, la colère, hein, la violence, parce que les salariés se rendent bien compte que certaines inégalités, à l'évidence, ne sont pas liées au mérite, hein. Et que, voilà, toujours nous dire, voilà, vous avez ce que vous méritez, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et évidemment, l'actualité fournit de nombreux exemples, hein, de cette frustration croissante, de cette peur de salariés de ne pas être à la hauteur, hein, qui peut, bien sûr, se traduire par des suicides, etc. De même, tout ceci attise sans doute l'envie. Hein. L'envie, on sait bien que pour les relations sociales, ce n'est pas un bon ingrédient, hein, que ça peut miner les relations sociales, puisque l'autre est un concurrent. Il est jalousé par rapport à l'autre et quelqu'un par rapport auquel il faut sans arrêt se distinguer. Donc il y a des coûts psychologiques de cette course au mérite qui sont indéniables. Il y a eu un temps où on disait ouais, la concurrence c'est bon pour la productivité, etc. Bon, il y a des travaux de psychologues sociaux, je pense à Kellerzahl par exemple récemment, qui montrent que dans les espaces de travail, une trop forte compétition, elle est délétère, elle nuit à la productivité. Ce n'est pas toujours ce stimulant, cet aiguillon qu'on voudrait mettre en avant. Mais là encore, les avantages idéologiques de ce mode de fonctionnement ne sont pas mineurs. Hein. Le discours qui encourage la prise de responsabilité, le mérite, renvoie tous les problèmes d'emploi sur la responsabilité des individus. Hein. C'est de votre faute, hein. Vous n'êtes pas employable, vous n'avez pas à vous rendre employable, vous ne savez pas manager votre employabilité. Hein. Donc, laisser entendre que la réussite résulte forcément des investissements des personnes conforte évidemment la croyance en un monde juste, hein, et conduit à une certaine indifférence à l'égard des victimes, voire à une attitude de blâme par rapport aux victimes. Et l'actualité, là encore, en atteste avec le climat croissant de suspicion par rapport aux chômeurs. Certains seraient des faux chômeurs, etc. Les bénéficiaires des allocations, est-ce que pour une part, ils l'ont pas, ils le méritent, etc. Donc, on voit bien que la logique méritocratique nourrit une logique d'inquisition permanente. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on va sous-peser les mérites? Est-ce que vraiment ils méritent ça? Est-ce que finalement ces gens-là n'ont pas des choses que moi je mériterais plus, etc. Donc on voit bien tout ce climat délétère que ceci entraîne. Mais il reste que ce culte de la responsabilité individuelle est cohérent, il est commode, il vient à point nommé pour tous ceux qui veulent réduire le rôle de l'État, hein, et pour justifier finalement les inégalités. On se dit, ben voilà, on va contrer les discriminations qui existent au départ, et du coup, ça justifiera les inégalités qui se maintiennent à l'arrivée. Bon. Malgré tout ça, hein, et même si jusqu'à présent j'ai mis plutôt l'accent sur la face sombre du mérite, son côté délétère, malgré tout ça, est-ce qu'on peut se passer du mérite? Et je terminerai par une dernière partie sur ce point, est-ce qu'on peut vraiment éliminer le mérite? C'est pas sûr, c'est-à-dire que je vais sans doute vous décevoir, mais à la fin, on va arriver à une conclusion un petit peu in medio stat virtus. Hein, est-ce que finalement, c'est pas ambivalent cette affaire? On peut rejoindre tout d'abord les analyses des psychologues que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Les psychologues soulignent, je l'ai dit, le confort psychologique apporté par la croyance en la méritocratie. Hein. Si on ne croit pas qu'on recevra notre juste dû, c'est l'arbitraire qui règne, et on ne sait plus quoi attendre de nos relations avec les autres. Donc la méritocratie, bon, ok, c'est une chimère, mais c'est aussi une façon de se motiver, hein, d'aiguillonner les acteurs. Et on peut même se dire que finalement, un discours d'une certaine gauche qui dirait « non, il n'y a jamais de mérite, mérite, c'est une notion libérale, il faut l'éliminer, etc. » Est-ce que ça ne contribue pas, ce discours visant à dire « il n'y a pas de mérite », est-ce que ça ne contribue pas à alimenter une certaine critique de l'État-providence ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le ferment d'une critique de l'État-providence, d'une culture de la défiance, qui dirait finalement, mais ce n'est pas vrai, celui-là, est-ce qu'il ne mérite pas ? Moi, j'ai beaucoup travaillé, lui n'a pas, etc. Donc, rejeter absolument le mérite n'est sûrement pas complètement sans conséquences délétères. Et les travailleurs ne le font pas. Si vous lisez, par exemple, le bouquin de un des livres récents de Dubé qui s'appelle « Injustice », où il a interrogé les travailleurs, on voit que les travailleurs amenés à se prononcer sur la justice de leur salaire manient sans arrêt plusieurs critères de justice, dont le mérite. Hein. Et on ne peut pas leur dire « le mérite, ça n'existe pas, ça c'est un truc néolibéral, etc. ça ne marche pas du tout ». Ils vont dire « mais si, mais moi je travaille plus que mon voisin, etc. » Donc on ne peut pas éliminer complètement. Si on l'élimine complètement, au contraire, on arrive à un effet contraire, hein, qui est un rejet de l'État-providence et d'un certain nombre de mesures de protection. Donc, si on voit guère d'alternative à une certaine méritocratie, tout en admettant qu'une méritocratie parfaite serait non seulement injuste, mais invivable, la conclusion est que ce n'est pas le principe de mérite qu'il faut rejeter, mais son caractère hégémonique. Hein, c'est l'usage excessif qu'on en fait. Alors, ça devrait être évident, évidemment, dans le monde scolaire. Hein. Évidemment, le mérite et l'égalité des chances sont un pilier très important d'une école qui doit aussi orienté, sélectionné pour des emplois. Mais personne ne conteste, je l'évoquais tout à l'heure, le fait que l'école doit former tout le monde. Alors ça, on pourrait dire, bah oui, c'est évident, tout le monde sera d'accord là-dessus. C'est effectivement assez consensuel de dire à l'école, il faut plusieurs principes de justice. Mais il faut bien voir que ça débouche sur des politiques qui peuvent être contradictoires et pas si consensuelles que ça. Par exemple, si on veut renforcer le jeu du mérite avec des dispositifs qui promeuvent l'égalité des chances, on peut considérer que ça va accentuer encore les inégalités entre les élèves. De même, on peut dire, donnons une formation commune à tout le monde, comme ça, au moins, tout le monde a la même chose, tout le monde sera, les élèves seront égaux. Peut-être, mais certains diront, mais ça va brider l'expression des mérites, ça peut aussi bousculer certaines libertés. Donc, il y a toujours des discussions. Et donc, ces principes de justice ne seront pas forcément si consensuels que ça dans leur mise en œuvre, et ils seront sans doute socialement non neutres, puisque les meilleurs élèves ou leurs familles vont privilégier la compétition méritocratique, alors que les plus faibles seront davantage attachés à la garantie d'un bagage commun à tous. Donc il peut y avoir des conflits. De même, dans le monde du travail, on peut défendre le jeu du mérite pour l'allocation aux emplois, en y voyant un gage d'efficacité. Très bien. Mais dans le même temps, on peut dissocier efficacité et justice, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se fonder sur le mérite entièrement pour répartir les richesses et déterminer les ressources de chacun, et on ne se fonderait pas sur le mérite, d'autant plus qu'on l'a vu, son origine est incertaine, on n'est jamais sûr de mériter son mérite, et aussi pour une autre raison que je n'ai pas tellement évoquée jusqu'à présent, qui est que, mais qui est particulièrement clair dans le monde du travail, qui est le mérite n'est jamais strictement une caractéristique personnelle. Hein. On voit bien dans le monde du travail que le mérite, il est toujours social. Et quel est le chef d'entreprise qui peut prétendre que sans ses ouvriers, il aurait eu la situation qu'il a ? Personne ne le soutiendrait. C'est-à-dire que l'exploitation que je peux faire de mon mérite, qui peut-être me demande des efforts personnels, elle est dépendante des autres, des moyens sociaux qu'on a à sa disposition. Donc ça, c'est bien démontré depuis les solidaristes, hein, et c'est repris récemment dans les ouvrages de Savidan. Dans une société complexe comme la nôtre, il y a des rapports d'interdépendance, de solidarité si étroits qu'il est impossible de prétendre qu'on est seul et complètement responsable de sa situation. Donc il est fort discutable, hein, comme le font certains néolibéraux, de considérer sans autre forme de procès que les individus, parce qu'ils sont propriétaires de leurs talents, le sont aussi des fruits qu'ils en tirent. Donc, aucun individu, si talentueux soit-il, pourrait s'enrichir tout seul sans les autres. Et donc, c'est donc tout un ensemble de raisons qui font qu'au total, dans le monde du travail aussi, le mérite n'excuse pas tout, ne peut pas tout justifier, et en particulier, mais là on entre dans le domaine de la philosophie politique ou de la politique tout court, hein, il faut le balancer avec d'autres principes qui seraient l'égalité des droits, la garantie d'une vie bonne, hein, comme dirait Rawls pour tous, le respect de tous et donc d'autres principes de justice. En conclusion, je ne reviendrai pas, je l'ai beaucoup souligné, sur les multiples avantages en termes de confort psychologique et idéologique de la méritocratie. Hein. Un collègue britannique, John Goldthorpe, disait « la méritocratie », j'ai utilisé un terme anglais, je m'en excuse parce qu'il est plus joli peut-être en anglais, mais je vais le traduire, il disait « la méritocratie, c'est le moral gloss des sociétés modernes ». Le gloss, c'est ce truc qu'on met sur les lèvres pour que ça brille. Il disait le gloss moral, le moral gloss des sociétés modernes, c'est quelque chose qui fait qu'on a l'air respectable. On n'est pas comme les sociétés archaïques, on n'est pas comme les sociétés aristocratiques. Nous, c'est bien, nous, c'est le mérite. Donc, c'est ce qui donne de nous-mêmes, de nos sociétés, une vision flatteuse. Hein, on est content d'être dans une société méritocratique. Ça fait partie aussi de ce que les psychologues sociaux appellent les mythes légitimateurs, hein, de nos sociétés. Mais en même temps, même si on est flatté dans ce type de société, il faut donc garder à l'esprit les faiblesses intellectuelle, intrinsèque à cette référence au mérite, surtout parce que c'est tellement plastique le mérite que finalement, qu'est-ce que ça peut justifier ? Cette plasticité ne vient pas seulement du fait que le mérite relève d'un jugement social qui peut fluctuer, hein, selon les valeurs du moment ou les conditions matérielles du monde. Elle repose sur le fait que le mérite ne peut jamais être strictement démontré, hein, puisque face à des destinées différentes, on n'est jamais en mesure d'établir si les personnes avaient, dès le départ, des préférences différentes, ou bien si au départ, elles avaient des préférences identiques, mais que certaines d'entre elles, plus que d'autres, ont rencontré des obstacles qui les ont empêchées de se réaliser. Donc ça, c'est strictement impossible, parce qu'on ne voit que les chances qu'on a eues et qu'on a saisies. Les chances qu'on avait au départ, c'est de la pure spéculation. Hein. Les chances, en termes statistiques, elles sont inobservables. Donc on ne peut jamais strictement démontrer que deux personnes ont eu strictement des chances égales. De même, on ne peut pas strictement démontrer que les personnes qui sont en haut de l'échelle sociale ne l'ont pas, pour une part, mérité. Donc le mérite ne produit donc jamais que des justifications qui sont contestables. Donc il ne peut pas justifier n'importe quoi, et il ne peut pas justifier que ceux qui ont échoué aux épreuves du mérite, finalement, ben, on ne leur doit rien. Ils ont un sort, qui est-ce qu'il est, et voilà, ils l'ont mérité. Il y a une citation, je vais vous citer une autre phrase de quelqu'un très intéressant sur ces questions, qui est Amartya Sen, qui disait « La notion de mérite dépend largement de nos points de vue sur ce qu'est une bonne société. » Je trouve ça très intéressant, cette idée de « La notion de mérite dépend largement de nos points de vue sur ce qu'est une bonne société », parce que la notion de mérite renvoie à un système de récompense qui est spécifié, daté, qui n'est pas dépourvu. Bien sûr qu'il y a de la contingente, de l'arbitraire, etc. Mais in fine, il s'agit d'encourager les actions dont les conséquences sont jugées bonnes. Qu'est-ce qu'on veut encourager ? Et une action sera jugée méritoire si elle produit un résultat que la société valorise, digne d'encourager. Donc on voit bien que l'évaluation des mérites se fonde sur des critères datés et situés qui ne sont pas forcément consensuels. Et de la même manière, l'égalité des chances est définie en regard des chances qu'on valorise ici et maintenant. Donc on a donc bien affaire à des constructions idéologiques, et il est normal sur ces questions qu'il y ait des débats. Alors il y a des choses qui ne posent pas de débat. Je peux encore prendre 5 minutes ? Il y a des choses qui ne posent pas de débat, et je terminerai par là, parce que c'est des débats d'actualité, justement. C'est finalement toutes ces mesures qui sont si consensuelles, apparemment, et qu'on est en train de prendre pour l'accès aux filières d'élite. Pourquoi sont-elles si consensuelles, finalement ? Elles sont consensuelles parce qu'évidemment, personne ne peut s'opposer de manière frontale à des dispositifs qui visent à aplanir les difficultés que rencontrent les jeunes de certains milieux sociaux ou de certains groupes pour accéder aux grandes écoles, par exemple. Pourtant, je pense avoir montré, j'espère vous en avoir convaincu, que ces dispositifs butent sur des limites importantes. Elles sont ponctuelles, elles sont trop tardives. Hein. Assurées par des mesures correctrices l'égalité des chances sur la base de tels diplômes obtenus et intentés, on va prendre les bacheliers, par exemple, et là, on va créer des dispositifs particuliers. Évidemment, ça ne suffit pas à reconnaître l'existence d'un vrai mérite, parce qu'on passe l'éponge sur tout ce qui s'est passé avant. et le diplôme considéré, sur lequel on se cale, ne saurait refléter le vrai mérite que s'il était garanti qu'à un stade antérieur, parfois très ancien, c'est le haut départ mystérieux que j'évoquais, un stade antérieur, tous les individus ont bien eu la possibilité d'avoir ce diplôme, qu'ils ont choisi dans un panel d'options, qui est effectivement offert à eux. Et ce n'est pas le cas, c'est évidemment embêtant, or on sait que ce n'est pas le cas, puisque les inégalités sociales interviennent très tôt. Ce serait donc bien plus juste d'agir beaucoup plus en amont, au stade de la petite enfance. Bon, ceci dit, le fait qu'on ne puisse pas éliminer tous les aléas de l'existence constitue aussi un argument pour ce type de dispositif, mais plus généralement pour la multiplication de secondes chances, d'autres secondes, troisième ou quatrième chances, tout au long de la vie, avec des mesures donc, de discrimination positive, mais qui seraient étalées dans le temps. C'est plus l'engouement pour ce type de dispositif qui interroge, parce qu'on peut craindre que cela traduise un glissement vers l'équité, l'égalité des chances, qui finalement recouvre certes un objectif de justice sociale très consensuel, mais aussi un certain conservatisme sur les inégalités tout court, sur l'inégalité des places. Il est clair que si supprimer les discriminations, c'est un préalable nécessaire pour aller vers de la justice sociale, parce que ces discriminations troublent le jeu de la responsabilité individuelle, mais ça ne suffit évidemment pas à rétablir la mainmise de la responsabilité sur les destinées, et moins encore à égaliser les chances. Ce qu'il faut souligner, et je le ferai pour finir, c'est que les inégalités sociales réelles ne se réduisent pas aux discriminations. Il faut interroger ces inégalités, leur origine, leur mode de formation, ça reste tout à fait à l'ordre du jour. En l'absence de toute discrimination, les inégalités de conditions de vie d'une génération entraînent inévitablement des inégalités de chance pour la génération qui suit. On voit bien à l'école, comment l'école pourrait-elle neutraliser complètement, chez les jeunes générations, les inégalités dont ils héritent de leur milieu social, inégalités sur lesquelles ils vont buter, qu'ils anticipent. Donc on voit bien que même si on atteignait les conditions d'égalité des chances, de toute façon, tant qu'il reste des inégalités de position inégales, eh bien ça va ruiner l'égalité des chances pour la génération qui suit. Donc on voit bien que l'égalité des chances a d'autant plus de probabilités d'être raisonnablement atteinte que l'éventail des inégalités de place est lui-même modéré. Et donc malgré toute la rhétorique la rhétorique méritocratique et la rhétorique de l'égalité des chances, on voit bien que c'est difficile de justifier des inégalités quand elles sont trop marquées. Donc, la lutte contre l'inégalité des chances ne dispense pas, non seulement elle ne dispense pas de la lutte contre l'inégalité entre les places, mais au contraire, et là je rejoins les positions de Dubé dans son dernier ouvrage, au contraire, engager la lutte contre l'inégalité des places est la voie privilégiée pour avoir des chances de réaliser l'égalité des chances. Donc il n'y a pas à choisir, alors qu'on peut avoir le sentiment que les politiques publiques ont choisi, il n'y a pas à choisir, et au contraire, la meilleure manière de réaliser l'égalité des chances, c'est d'égaliser un peu, on le sait bien à l'école. Tous les maîtres vous le diront, la meilleure façon de rendre les scolarités plus égales, ça serait que les enfants soient moins inégaux au départ, ben, évidemment. Donc c'est vraiment sur cette carte-là qu'il faut jouer. Je vous remercie. Thank you.